Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Adolescente, Audrey savait déjà qu'elle avait un lien très fort avec les bébés, et si elle n'entrait pas dans les cases niveau scolaire, elle a su tracer sa route au fur et à mesure que se traçait sa vie. Une première fausse couche à l'âge de 20 ans lui mettra la puce à l'oreille quant à la solitude que peuvent ressentir les femmes dans la maternité. Puis, un bébé solo, une reprise d'études et l'annonce d'un cancer du col de l'utérus finiront de lui montrer clairement la voie, sa voie. Elle veut accompagner les jeunes mamans pour les aider à construire une maternité apaisée. Mais en France, les cases comptent. Alors c'est au Canada qu'Audrey, devenue maman de 3 garçons, va construire sa vie de famille en même temps qu'elle va construire un accompagnement sur mesure pour chaque femme. Dans cet épisode, Audrey nous parle de ses grossesses, de l'influence de sa vie personnelle sur sa vie professionnelle, de tout son cheminement avant de s'installer au Canada et de son envie plus forte que tout d'accompagner les femmes dans leur maternité. Bonne écoute. Bonjour Audrey.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci de me recevoir et de m'avoir invitée dans Le Tourbillon Podcast.
Alors toi, tu es la maman de 3 enfants, de 3 garçons.
Exactement, 3 garçons, effectivement.
Quel âge ils ont ?
Alors j'ai Camille qui va avoir 12 ans au mois de janvier. J'ai Marc-Élie qui va avoir 7 ans au mois de janvier. Et j'ai Aidan qui vient d'avoir 3 ans.
Et tu vis au Canada ?
Exactement, on est expatriés depuis 5 ans. 5 ans d'expatriation au Canada.
Et alors, on va revenir un petit peu à ton adolescence et à ton parcours dans le milieu de la maternité. Alors toi, à 17 ans, tu décides de quitter l'école parce que le système scolaire ne te convient pas forcément.
C'est ça. j'étais en dehors des cases. Alors, pour le déclic s'est fait à l'âge de 13 ans exactement, où j'ai eu la chance d'accompagner ma maman dans un stage au Brésil. Ma mère a repris ses études d'infirmière quand moi je suis rentrée en 6e et elle a eu l'occasion de partir en stage de santé publique à l'étranger. Ayant sa sœur qui vivait au Brésil, elle nous a amenés avec elle. Donc nous sommes partis vivre au Brésil 3 mois et ça a été une grosse, grosse prise de conscience où je suis revenue en France et j'ai dit à mes parents « je ne veux pas vivre en France ». Je veux vivre au Brésil, voilà, je veux partir vivre au Brésil, et du coup je veux cette vie, voilà, tout me paraissait beaucoup plus simple, j'avais pas de difficultés identitaires, tout le monde était pareil, mes cousines avaient les mêmes origines que moi, mais on leur a jamais pointé du doigt, enfin, ça me paraissait waouh, quoi, tu vois, je me disais, moi je suis pas bien où je suis, déjà à 13 ans, voilà, j'ai compris que j'avais envie d'autre chose.
Parce que toi, tes origines.
Alors moi, je suis donc née en France et je suis d'origine algérienne, kabyle exactement, et italienne.
D'accord.
Donc issue de l'immigration italienne et algérienne. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu pas mal de difficultés à savoir qui j'étais qui j'étais, à me retrouver et à être moi en fait, tout simplement. J'avais du mal à me mettre dans une case et donc dans le système scolaire, ça s'est ressenti aussi très rapidement. Donc je suis dyslexique, je le sais maintenant, c'est-à-dire que j'ai une façon d'apprendre un petit peu à ma manière, à moi, et j'ai toujours eu des difficultés à m'intégrer dans les cases du système scolaire. Donc j'étais en conflit. J'étais très bonne élève jusqu'à ce que je décroche presque, fin troisième, on va dire, quatrième, troisième, surtout au retour du Brésil où j'ai un peu décroché avec le système scolaire, pas avec l'école parce que j'aime apprendre, mais où j'ai décroché en fait, voilà, j'étais plus à ma place. Sauf que tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, puis tu n'as pas le choix. C'est l'école, c'est une norme, tu dois la respecter, basta. Donc en fait, ça a été très compliqué pour moi jusqu'à ce que je passe mon bac en fait, mon baccalauréat. Donc j'ai fait un cursus littéraire. Et déjà là, ça a été un problème parce que mon enseignante littéraire et français de seconde s'opposait à mon passage en littéraire parce que selon elle, je n'avais pas le profil. Donc déjà, si tu veux, ça a été un combat, mini-combat à l'âge de 16 ans et demi, de pouvoir aller en littéraire. Et ma mère a dû intervenir en disant bah non, ma fille, elle aime les langues, elle aime l'anglais, elle aime l'anglais, elle aime le français, elle aime lire, elle ne va pas aller dans une autre carrière que ça, quoi. Donc on s'est un peu imposé là-dessus, donc j'ai réussi à passer en littéraire, sauf que je suis donc, je répète, dyslexique et je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc du coup je n'avais jamais les points d'orthographe et pour les profs j'étais une mauvaise élève. Voilà, j'avais rien à faire dans ce cursus, voilà, je ne maîtrise pas la langue française donc je n'avais rien à faire ici. Et donc ça a été un conflit permanent avec les professeurs, avec les enseignants, à toujours prouver que non j'ai ma place. Voilà, parce que je me sentais à ma place, tout simplement. Et donc, j'ai décroché. J'ai vraiment décroché. Je faisais beaucoup de danse à l'époque. J'étais à fond dans la danse. Et du coup, j'ai complètement décroché. La danse a pris plus de place dans ma vie que l'école. Et j'ai eu beaucoup d'absentéisme. J'ai loupé beaucoup, beaucoup de cours. Et donc, jusqu'à ce que ma mère, mes parents soient obligés de rencontrer les professeurs principaux, les, je ne sais plus comment ils s'appellent, tu sais, ceux qui s'occupent des études, là, les CPE.
Oui,
ouais, c'est ça, les CPE. Donc, voilà, l'absentéisme était un problème parce que je ne m'intéressais plus à l'école. Donc, je ne voulais plus y aller, je préférais aller danser. Donc, je ne voulais plus du tout y aller. Et personne ne me comprenait, sauf ma maman. Ma maman a compris un petit peu ce côté en décalage. Et elle a toujours dit que si elle avait pu le faire, elle nous aurait fait l'école à la maison. Donc, tu vois, j'avais un peu ma mère qui me suivait dans mes hors normes, dans mon parcours un peu déjà un petit peu atypique. Et puis, j'ai passé mon bac et je ne l'ai pas eu. J'ai eu 9,86 ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui me prouvait en fait que, franchement, pour moi, c'était débile, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de pas, enfin, je veux dire, de voilà, de pas me faire avoir le bac à 0,20 près. Tu vois, c'était vraiment, je trouvais ça, voilà, vraiment pas injuste, et j'ai dit moi je retourne pas à l'école. Voilà, j'ai dit à mes parents je n'y retourne pas. Mon papa qui était un peu plus dans les voilà, qui voulait absolument insister pour que j'obtienne mon baccalauréat du coup littéraire, et ma maman du coup a dit ok, bah, on va trouver une solution, et la solution qu'on a trouvée c'est passer mon bac en candidat libre avec le CNED.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai commencé à étudier. J'ai passé j'ai redoublé ma terminale. Et donc, je l'ai faite à distance avec le CNED, seulement les matières que je n'avais pas validées. En fait, je pouvais choisir les matières à repasser. Donc, en fait, j'ai repassé seulement 4 matières parce que j'avais eu de très bonnes notes dans les autres. Mais c'est en philo où je me suis plantée. Et du coup, j'étais en littéraire, donc philo coef 6, voilà. Si t'as 6 en philo, voilà, t'es pas bonne, quoi.
C'est fichu.
Donc, ça a été fichu pour moi. Et donc, j'ai repassé les matières dans lesquelles j'étais plus à l'aise, donc l'anglais. Je sais plus, la philo, j'étais obligée de la repasser, et l'histoire géo, je crois. Et j'ai dit à mes parents, voilà, moi, ok, je veux bien repasser mon bac, mais par contre, je ne veux pas rester en France. Donc, je suis partie en Angleterre. Alors, ça m'a servi beaucoup pour l'anglais, pour repasser mon bac en anglais. Et j'ai étudié avec le CNED à distance. Et j'ai fait un petit tour d'Angleterre, plusieurs villes. En fait, j'ai fait Londres, Birmingham, Glasgow. Enfin, tu vois, j'ai été un peu de partout. Et ça n'a fait que confirmer mon envie d'évasion, en fait, tout simplement. Tu sais, ce sentiment où en fait à chaque fois tu dis ah, mais non mais moi je rentre pas, mais moi je veux rester ici, ah non mais j'aime trop, tu sais, tu te sens bien en fait, tu te sens bien, voilà, tu te sens bien. Et donc c'est comme ça que j'ai passé mon bac en candidat libre. Donc c'est pour ça que souvent je dis j'ai arrêté l'école, mais c'est surtout que j'ai quitté le cursus scolaire classique pour aller chercher un autre cursus. Et donc au grand bonheur de tout le monde, j'ai eu mon baccalauréat littéraire. Donc, voilà. Mais il n'était pas question pour moi de retourner à l'école. Les études universitaires, laisse tomber, ce n'était pas pour moi. C'était vraiment, Déjà, j'avais galéré dans le système au lycée. J'allais pas me... Je voulais faire une fac de psycho à l'époque parce que je voulais être psychologue chez les enfants porteurs, dans les familles qui ont des enfants porteurs de handicap. Et puis, j'étais découragée par les études. Voilà, j'étais sans cadre à la fac. J'ai dit, je vais me planter. Allez, je vais travailler. Donc, je suis partie bosser, en fait. Je suis partie bosser dans le commerce, dans la téléphonie. J'ai fait des missions bénévoles avec des mamans. Enfin, tu vois, là, je suis partie... barouder un petit peu à droite, à gauche et me débrouiller.
Mais déjà, de base, tu avais cette envie de travailler auprès des familles et un petit peu dans la maternité, alors ?
Oui, toujours. Alors, tu sais, ça fait très conte de fées, mais déjà petite, enfant, j'étais l'aînée d'une famille et je voulais à chaque fois, j'attendais, je me souviens avoir dit à ma grand-mère, j'avais hâte d'avoir de la poitrine pour coller les bébés sur moi. Donc, tu sais, parce que ma grand-mère avait une forte poitrine, tu sais, enfin, qui avait allaité, enfin, etc. Elle s'en foutait de son maintien ou pas, mais tu vois, elle avait vraiment l'image de la grand-mère, là, tu sais, avec une forte poitrine, puis qui collait les enfants, on se collait tous sur elle, en fait, et on était on était trop bien, quoi, tu vois, on était, alors, pas du pot à pot, mais tu vois, on était collés contre elle, en fait, et je me souviens combien de bébés se sont endormis contre elle, et je rêvais d'être comme elle, en fait. Je me dis, mais moi, je veux aussi que les bébés s'endorment comme ça sur moi. Donc, dès qu'il y avait un bébé dans la famille, je voulais l'endormir. Je voulais le prendre et le faire dormir sur moi. C'était, c'était vraiment... Et du coup, c'est comme ça et c'est venu, en fait, la suite est arrivée naturellement. Tu vois, je peux pas expliquer ce que je ressentais quand j'avais ces bébés, quand je changeais leur couche. J'étais adolescente, j'étais 12, 13, 14 ans. Je les gardais contre moi. Je pouvais rester assise des heures avec un bébé collé sur moi. Et puis tout le monde me disait, ah, mais toi, on va le donner à Audrey parce qu'Audrey, elle arrive bien à endormir les bébés. Et je me souviens que je fredonnais. Tu sais, je faisais un petit son avec ma voix un peu sourd, un peu grave. Et les bébés s'endormaient sur moi comme ça. Puis j'étais gamine. Hein. Donc c'est venu, en fait, c'est venu petit à petit avec le temps, mais je savais que j'allais faire quelque chose tourné vers l'autre.
D'accord.
Ça, c'était certain parce que j'aimais vraiment, j'aimais ça. Et avec les bébés, les enfants, à l'époque, tu sais, t'as 17, 18 ans, tu sais pas trop. Et puis en même temps, t'as des rêves, des envies, mais en même temps, tu dois manger parce que t'es partie, tu sais, je suis partie de chez moi à 18 ans, pas parce que j'étais en conflit, mais vraiment par choix d'autonomie et d'indépendance. Donc je n'ai jamais été en froid avec mes parents, j'avais dit je pars, je ne m'entends pas avec vous, non. C'est vraiment parce que je voulais être indépendante. Voilà, je voulais être indépendante, avoir ma voiture, mon boulot, payer mes factures, voilà, je voulais être indépendante. Et tu dois travailler. Tu t'aperçois que si tu veux travailler avec les enfants, les familles, etc., il te faut des diplômes. Mais que si tu veux passer des diplômes, c'est beaucoup de temps, c'est de l'argent, c'est, tu vois, c'est. Donc, tu mets ça dans un coin de ta tête. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, quand je pourrais. Voilà, quand je pourrais. Après, il y a des choses, des choix que tu fais dans la vie qui sont parfois pas les bons et tu le sais pas. Donc, ça recule un petit peu tes projets professionnels. Mais ça a toujours été dans un coin de ma tête. Même si j'ai fait autre chose pour me nourrir et pour manger, c'était dans ma tête. À un moment donné, j'allais faire ça. Je sais pas quand, mais voilà, à un moment donné, j'allais me diplômer pour pouvoir partir, parce que je voulais aussi partir à l'étranger. Donc, si j'avais... fallait que je trouve comment faire, en fait. Faire le bon diplôme qui me permettrait de partir à l'étranger, mais en même temps qui me permettrait de gagner ma vie, etc., etc. Donc, ça a été des calculs pour arriver à mes fins, quoi.
Parce que quand tu as eu ton bac en poche, du coup, tu es rentrée d'Angleterre ?
J'ai travaillé, parce que je suis rentrée d'Angleterre en ayant... fait flamber ma carte de crédit avec toutes les boutiques qu'il peut y avoir en Angleterre, du coup, etc. Donc, j'ai dû aller renflouer les caisses. Et donc, j'ai bossé, en fait, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile. Et très rapidement, on m'a confié l'ouverture de boutique j'avais quoi, 20 ans et demi à peu près.
D'accord. Justement, toi, c'est à cet âge-là aussi que t'es tombée enceinte ?
Oui, exactement. Je suis tombée enceinte, effectivement. J'étais en pleine carrière, si je peux dire, professionnelle, parce que j'excellais dans le commerce, en fait. Dans la téléphonie, j'excellais. Donc, je me déplaçais dans la France, en fait, pour aller former des vendeurs. Et du coup, un jour, j'ai fait un test de grossesse, donc j'étais enceinte. Et j'étais, je me souviens, j'en parle sur un article, j'étais en plein milieu de nulle part à Créteil pour la première fois de ma vie sur Paris. J'allais former une jeune dans une boutique et en pleine nuit, en fait, j'ai commencé à saigner et je me suis retrouvée 21 ans au milieu de nulle part à Créteil sans même savoir ce qu'il fallait que je fasse, en fait. J'avais des douleurs de règles énormes. Enfin, voilà, ça a été très, très violent et j'ai encore la scène, en fait, en tête, où je descends à la réception et en pleurs et pliée en deux, en disant au monsieur, en disant je saigne, je sais pas quoi faire, est-ce qu'on peut appeler une ambulance? Et lui m'a dit, je vais vous appeler un taxi, en fait. Donc, du coup, j'ai pris un taxi en pleine nuit pour arriver au centre intercommunal de Créteil, qui était énorme pour moi, campagnarde. Du coup, j'étais là, waouh! Et là, en fait, tout naturellement, comme si je venais acheter une baguette de pain, on me dit, madame, vous êtes en train de faire une fausse couche. Je n'avais même pas idée de ce que c'était, je ne savais pas. Enfin, voilà, j'étais toute seule dans ces pièces froides. Ça a été un gros. Voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la maternité. Moi qui rêvais de devenir mère, je suis rentrée dans la maternité par une fausse couche. Très jeune en plus.
Ouais. Comment tu l'as vécu ?
Très mal, très très mal. Très très mal, ça a été. Le début de plein de choses, le début d'une séparation, le début d'une séparation parce que j'estimais que j'avais pas été accompagnée, en tout cas j'avais pas vécu la chose comme il se fallait avec la personne qui partageait ma vie à ce moment-là, et ça a été une prise de conscience, en fait, une prise de conscience de au niveau intérieur, et j'ai tout quitté, en fait, voilà. J'ai tout quitté, j'ai démissionné de mon boulot, donc je venais d'ouvrir une boutique de téléphone immobile, j'ai démissionné de mon boulot et je me suis dit, ce que je suis en train de vivre, cette espèce de solitude, d'isolement et de souffrance, en fait, intérieure, les soignants qui m'ont accueilli ce jour-là, je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas laisser quelqu'un comme ça. Et c'est là où je me suis dit, je ne peux plus perdre de temps, je veux être cette personne qui va accueillir la souffrance des mères et qui va ne pas les laisser toutes seules. Donc ça a vraiment été là où j'ai arrêté de déconner, on va dire, et de perdre du temps dans ma vie, où j'ai dit non, je ne veux plus faire ça, et j'ai tout quitté. Donc je me suis séparée de la personne avec qui j'étais à l'époque. Et du coup, j'ai changé de boulot, j'ai déménagé, changé de ville, vraiment, voilà, j'ai tout repris. J'ai essayé, en tout cas, j'ai amorcé la remise à zéro des choses.
Donc là, c'était quoi la première étape ? Tu savais quelles études tu allais devoir faire ?
Non, je ne savais pas. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment y arriver. Surtout que, si tu veux, tu démissionnes d'un boulot, tu gagnes à peu près 3000 euros par mois, tu arrives dans une grosse ville, tu es toute seule, tu sais, tu dois, encore une fois, tu dois travailler, hein, donc tu peux pas, je veux dire, reprendre tes études en France, c'est quand même compliqué, hein, si t'as pas de famille derrière toi, si t'as pas, moi, ma famille est derrière moi, mais à l'époque, je voulais pas leur demander quoi que ce soit, et du coup, c'était... il faut payer tout ça, donc pour moi, il fallait que j'aie un boulot pour mettre de l'argent de côté et étudier et reprendre des études, me diplômer. Donc j'ai pris les choses dans l'ordre. Alors, prévoyante un petit peu et quand même, comment dire, j'aime pas trop prendre des risques. Enfin, j'aime prendre des risques, mais toujours très mesuré. Donc en fait, à 22 ans, donc après avoir fait cette fausse couche et avoir pris cette prise de conscience, j'ai décidé j'avais à l'époque des belles fiches de paye. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté mon appartement. Je suis partie à Lyon et donc au lieu de louer mon appartement, je l'ai acheté parce que justement j'étais en train de sentir que ma vie prenait un tournant et que peut-être que re-bien gagner ma vie, ça ne m'arriverait jamais à nouveau. Donc du coup, il fallait que je fasse quelque chose pour sécuriser un petit peu ma vie. Et à ce moment-là, du coup, donc en pleine séparation, etc., un nouveau test de grossesse positif. Donc il était bien évidemment hors de question. Pour moi, devenir mère, c'était une priorité dans ma vie. C'était une priorité coûte que coûte, que je sois solo, peu importe, que je sois à la rue, que je sois... Devenir mère, c'était prioritaire. C'était vraiment, surtout après ce qui s'était passé, c'est la vie me faisait un cadeau. J'ai tout de suite, si tu veux, été voir les bons gynécos pour être accompagnée correctement, etc. Et donc, en même temps, si tu veux, de ce changement et de cette remise à niveau dans ma vie, cette remise à zéro même, j'étais enceinte. Donc je rigole parce que je pense à mon amie, une de mes meilleures amies, qui m'a accueillie, qui était à l'école à Lyon, en école de commerce, et qui m'a accueillie dans son 20 mètres carrés pendant plusieurs mois, avec mon test de grossesse positif. Et du coup, voilà, on vivait toutes les deux dans 20 mètres carrés.
Parce que là, c'était décidé avec le papa que vous étiez...
On était séparés.
Ouais.
Et donc voilà, c'est jamais au bon moment que les choses arrivent quand tu les désires plus profondément. Hein.
Mm-hmm.
Toujours, ça arrive. Et un enfant, d'ailleurs, ça n'arrive jamais quand tu le veux. Donc, ça vient déjà, si tu veux, déboussoler un petit peu ta vie et tu dois composer avec ça. Mais pour moi, c'était voilà, hors de... Voilà, quitte à être toute seule, quitte à être en galère, parce que ça a été le cas, cet enfant, je l'aurais.
Parce que lui ne désirait pas l'élever avec toi ?
C'était invisible, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y avait pas de contact. Voilà. Je peux pas te dire, en fait. Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un. La seule chose que je sais, c'est que j'étais toute seule. Voilà. C'est que j'ai accouché toute seule. C'est que j'ai mené cette grossesse toute seule. Voilà. Donc après, comme je dis, je ne peux pas m'exprimer à la place de quelqu'un et je ne jugerai pas sa position. Ça a été son choix à lui. Voilà. C'est le mien aussi, hein, je veux dire un choix commun, mais après le reste a été son choix. Chacun, voilà, moi ma devise c'est on subit les conséquences de ses actes, voilà. Donc du coup on a le choix dans la vie, à nous de faire les bons ou les mauvais, et voilà. Donc je juge pas, mais ce que je sais c'est que j'étais toute seule.
Et alors comment s'est passée cette première grossesse ?
Première grossesse difficile, donc j'avais 23 ans. Difficile pourquoi ? Parce que tous ces changements physiques, tu sais, en même temps que je passais de sortie de l'adolescence, si tu veux, de la grande adolescence, je devenais femme et en même temps je devenais mère. Donc si tu veux, ça a été, tu sais, il y a un deuil que tu es en train de faire de toi-même. Et donc moi j'ai sauté cette étape tout de suite en devenant mère. Donc du coup, ça, si tu veux, physiquement, le changement physique pour moi était difficile. Grande danseuse, je veux dire, je faisais beaucoup de danse, donc je veux dire avec le corps qui va avec, grossir, avoir une forte poitrine, tous ces trucs là, c'était ça n'a pas été très agréable. Moi j'ai pas aimé être enceinte déjà, mais par contre j'avais hâte de tenir bébé dans mes bras. C'était vraiment mais la grossesse en elle-même, j'aime pas. Voilà, j'aime pas être enceinte. J'en ai eu trois, j'en ai deux après, hein, et puis c'est confirmé, je n'aime pas être enceinte. Je n'aime pas ces changements hormonaux, je n'aime pas que les hormones prennent le contrôle de mon corps, être malade, je n'aime pas. Je n'ai pas des belles grossesses, j'en aurais rêvé, mais ce n'est pas mon cas. Donc du coup, je n'ai pas aimé. Mais du coup, donc la grossesse s'est bien passée, je n'ai pas eu de problème particulier. Je suis un peu, je pense aujourd'hui, avec le recul, tu vois, une fonceuse en fait. Quand je suis dans le truc, je suis dans le truc et je ne regarde pas, je n'analyse pas. Je suis dans le truc, voilà, je fonce. Je suis toute seule, ok, pas de problème, je vais me débrouiller, je suis toute seule. Donc toute seule, démissionnée, je reprenais mes études parce que j'avais choisi finalement de passer mon concours d'infirmière. Pour moi, c'était le meilleur deal. C'était le meilleur deal pour arriver à ce que je voulais, c'est-à-dire à être en contact avec un public pédiatrique ou maman, tu vois. Enfin, c'est comme un premier pied dans le milieu avec l'intention de me spécialiser. Mais ce qui me permettait aussi, en tant qu'infirmière, de pouvoir partir à l'étranger. C'était un passeport professionnel international. Donc, si tu veux, stratégiquement parlant, passer le concours d'infirmière, ma mère étant infirmière aussi, c'était pour moi un bon deal, tu vois, une bonne façon de mettre un pied dans ce milieu, puis après de composer et voilà, d'aller où je voulais. C'était voilà, le compromis que j'ai trouvé. Je venais de quitter mon boulot, j'étais en train de m'inscrire au concours infirmier, j'étais enceinte, toute seule, donc je vivais avec 800 balles par mois, je venais d'acheter mon appart, bref, je pense que tu t'imagines que c'était pas la conjoncture la meilleure pour tout gérer, mais je l'ai fait. Tu vois, ça va faire 12 ans, je l'ai fait, j'ai repris mes études, j'ai accouché toute seule.
Ouais.
Donc c'est enfin toute seule, pas toute seule, parce que c'est mon petit frère qui était à l'accouchement.
Ah oui ?
Et qui a coupé le cordon de mon fils.
Wow.
Ouais. Mon frère avait 20 ans à l'époque, et en fait, vu que j'étais toute seule, si tu veux, on avait ma famille et mes proches avaient comme des tours de garde en disant à la fin de ma grossesse, c'est toi qui restes avec elle aujourd'hui, comme ça s'il faut l'amener à la maternité, etc. Et c'est tombé le jour où c'était mon frère qui était de garde.
D'accord.
Donc c'est lui qui m'a amené à la maternité et ma mère lui a ordonné de rester avec moi et de ne pas me laisser toute seule. Donc voilà, donc il est resté avec moi et jusqu'à ce que j'accouche en fait. Donc c'est lui qui a coupé le cordon et puis le gynéco a dit le papa va couper le cordon, puis lui a dit bah non, je suis pas papa, je suis le frère. Et le gynéco a dit bah on aura tout vu hein. Donc voilà.
Génial.
Ouais.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Non, je crois pas. Bah, tu sais, je me souviens de cette entrée dans la maternité réelle. Alors, j'ai adoré accoucher. Par contre, j'aime pas être enceinte, mais j'accoucherai plein de fois. J'ai adoré l'étape de délivrance. Vraiment, j'adore accoucher. Et ce qui a été difficile, c'est le fait d'être seule, hein, forcément. Tout de suite, et surtout j'ai pas l'angoisse, cette espèce d'angoisse qui t'envahit, tu sais, tu regardes s'il respire, enfin tu vois, c'est tout petit, c'est tout fragile, le manque d'accompagnement bien évidemment, tu vois, mon premier bain que j'ai donné à mon bébé, j'étais toute seule et les auxiliaires ou les filles qui étaient dans la salle racontaient leurs vacances et je me suis sentie tellement seule. Tu vois, c'est cet allaitement où en fait j'avais un animal, clairement c'était un animal qui voulait que mon sein et qui me dit bah, c'est normal, vous donnez une tétine, on prend la pouponnière. Enfin, tu vois, je savais que c'était pas normal, je le savais. Et je me souviens de pas avoir dormi, mais quand je te dis pas dormi, je te jure que j'ai pas dormi pendant 4 jours.
Ah oui ?
Ouais, j'étais dans un état d'hypersensibilité et j'ai pas dormi. Et je me souviens que je suis rentrée dans mon appartement et j'avais des chats à l'époque, j'avais 2 chats. Et quand je suis arrivée, j'étais tellement stressée, tellement paniquée, que du coup, quand ils ont commencé à courir dans tous les sens, j'ai fait comme une espèce de crise de panique et j'ai dit à ma mère, il faut sortir des chats, sinon je les mets dehors. Il faut sortir des chats, mais sinon je les mets dehors. J'ai fait une fixation sur les 2 chats, donc ma mère a récupéré les 2 chats, qu'elle a encore aujourd'hui. Et du coup, ça a été... Ouais, ça a été j'étais dans un état, en fait, c'était très intense. Et quand j'ai commencé à retrouver le sommeil, je me rappelle, je tremblais, tu sais, de nerfs. Mmh. Quand vraiment, tu trembles de nerfs parce que bah, ton corps, il n'en peut plus. Et voilà comment je suis rentrée dans la maternité. Et ça n'a fait que confirmer mon projet professionnel.
T'en étais où, du coup, dans tes études ?
C'est 3 ans. En France, 3 ans. Je venais de passer mes concours infirmiers. Mon cerveau est en ébullition en permanence. En gros, quand j'ai une idée, faut que ça se passe tout de suite, sinon souvent je passe à autre chose. Donc en fait, je savais que si je ne réussissais pas le concours infirmier la première fois, j'allais pas le repasser. Donc en fait, j'ai passé 7 concours. J'en ai passé 7 dans 7 villes différentes pour être sûre d'en avoir un. Et finalement, j'en ai eu 6. Donc voilà, j'ai eu mes 6 concours infirmiers et puis j'avais ma maman aussi qui avait passé ses concours infirmiers puis qui avait le souvenir que c'était pas facile et qu'elle voulait aussi que je réussisse parce qu'elle me connaît, que ça se passe du premier coup parce que tu sais c'est un coup, c'est à peu près 100-150 euros par concours, donc du coup tu sais faut sortir presque 800 euros, je n'avais pas, hein. Donc mes parents m'ont aidée et c'est ça, j'en ai passé 7 et dans des villes stratégiques un petit peu, dans l'idée de vouloir rester à Lyon bien sûr, et finalement j'en ai eu 6, tu vois, j'ai passé les écrits et les oraux et ça a été... une première reprise de confiance en moi. Tu sais, j'ai toujours été cassée à l'école, tu vois, voilà, j'étais pas l'élève parfaite, etc. Et là, en fait, d'avoir réussi, d'être sortie du cadre scolaire, d'avoir appris de la vie, finalement, je veux dire, d'être devenue maman, d'avoir appris de la vie, etc., et de réussir ces concours infirmiers qui sont soi-disant si durs, bah, j'ai dit, ah, mais attends, meuf, t'es pas si nulle, quoi, tu vois, c'était pas si con, en fait. Tu vois, tu peux arriver à faire des trucs. Et donc, ça a été j'ai commencé à me réconcilier un petit peu avec les études en me disant, bah, t'as quand même réussi. Tu vois, les oraux, ma mère qui avait très, très peur des oraux parce que je suis un petit peu franc du collier, tu sais, je suis un peu fru des fois. Et tu vois, les oraux, alors bien évidemment, j'ai respecté les codes. Hein, j'ai mis mes ballerines, mon petit jean, une petite chemise, les cheveux tirés. Tu vois, je suis allée vraiment le plus classico-classique. Stratégiquement parlant, et du coup, voilà, d'avoir réussi ces 6 concours et ces 6 oraux, surtout, ma mère était, je me souviens, était contre mon père aussi, mais ma mère avait peur que je sois trop, en fait, tu vois. Et donc, j'ai réussi ces concours infirmiers, et donc en étant maman d'un petit garçon.
Bravo.
Et puis, tout le monde s'est dit, ah, mais comment vous allez faire avec un enfant? Ça va être un frein pour vos études? Et moi, je disais, bah, pas du tout. Pour moi, c'est un moteur, au contraire, je disais, ça fait une raison de réussir autre, quoi. Pour moi, c'était ma vie avait un sens, en fait. Vraiment, c'était, j'avais plus le temps, là. C'était bon, c'est bon, il faut foncer. Et tu vois, 12 ans après, je suis toujours faut foncer. Donc, tu vois, j'ai pas réussi à lever la pédale. Donc, du coup, c'est ça, j'ai cravaché. Et puis, quand un problème arrive, il n'arrive jamais seul. Ça a été les années noires un peu de ma vie. Je rentre en école d'infirmière en septembre. Et en même temps, en septembre, j'ai dû faire une biopsie du col de l'utérus. Et du coup, avec un diagnostic qui est tombé de cancer du col de l'utérus. Donc, en même temps que je rentre à l'école. Donc, avec diagnostic d'un haut grade, en fait. Donc, avec curetage, curetage, radiothérapie, etc. Donc, voilà, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout, j'arrête tout, je ne vais pas y arriver. Et puis, j'ai trouvé un UCI vraiment au top, en fait, une tutrice au top, une promo, en fait, magnifique, et qui m'a aidée à tenir tout le premier semestre, en fait, au-delà des traitements. Donc, j'ai réussi, mais j'ai été pas mal absente à cause des traitements, mais j'ai réussi... J'ai réussi à passer ce semestre-là malgré les traitements. Et du coup, c'est aussi la période où j'ai rencontré mon mari, donc qui lui a tout quitté pour rester avec moi.
Tu l'as rencontré où ?
Des amis en commun. J'avais une bande d'amis sur Lyon. Et puis, du coup, lui, il était militaire. Donc, en fait, lors d'une permanence, on s'est rencontrés un week-end, autour d'un week-end festif. Et on s'est rencontrés comme ça. Et tout de suite, voilà, ça a été... Il y a eu un truc, comme on dit. Et 10 ans après, ben, on est mariés et on a notre famille. Mais lui, en fait, quand on s'est rencontrés, ben, maman célibataire, galérienne, parce que je suis en galère, je vivais avec 800 balles par mois. J'avais mis mon appart, donc j'avais acheté, je n'ai pas voulu le vendre. Donc j'avais mis une partie de mon appartement, une des chambres, en location. Donc ça fait que j'avais une coloc. Donc maman solo avec une coloc, elle vient d'apprendre à être malade et elle est à l'école. Waouh, c'est genre... Le gars, il fuit, quoi. C'est le demi-tour, tiens, moi, je me mets pas là-dedans. Et non, du coup, lui est resté et a même quitté ses projets professionnels dans lesquels ils étaient pour m'aider, en fait, parce que les séances de radiothérapie provoquaient beaucoup, beaucoup de fatigue chez moi et je n'entendais plus mon fils se réveiller la nuit.
Ah oui, d'accord.
Je ne l'entendais plus. Je n'entendais plus, je n'arrivais plus à me réveiller du tout parce que j'étais vraiment dans un sommeil... très profond, c'est particulier, hein, les effets secondaires des radiothérapies et de la chimio, et du coup je ne rêvais plus, je n'avais plus de, voilà, j'étais dans un sommeil comme je disais souvent, je faisais un coma, quoi. C'était, donc je n'entendais plus mon fils la nuit, et donc du coup lui est resté et il m'a accompagnée.
Et pendant combien de temps t'as été soignée
J'ai fait 2 récidives, donc en fait en gros, si tu veux, grosso modo, j'en ai eu presque pour 2, allez, vraiment pour tout finir et me dire que c'est entre guillemets derrière moi, à peu près 4 ans, 4-5 ans.
Ah oui, d'accord, ok.
4-5 ans de haut et de bas, beaucoup de bas, de différents traitements, d'effets secondaires, de prise en charge psychologique. Ça fait 5 ans à peu près que dans ma tête et dans mon corps, ça va mieux.
Et on t'avait dit que tu pourrais plus avoir d'enfants ?
Oui, effectivement. On m'avait dit que je ne pourrais plus avoir d'enfants. Et pour moi, c'était plus dur de ne plus pouvoir avoir d'enfants que la maladie en elle-même. C'était vraiment me dire que je ne pouvais plus avoir d'enfants, ce n'était pas possible. J'ai changé à peu près 4-5 fois de praticien, en fait, de médecin, pour trouver celui qui allait m'écouter et qui allait trouver une solution pour que je puisse à nouveau avoir des enfants. Je ne voulais pas être traitée, je ne voulais pas, en fait, tu sais, j'étais traitée dans un centre de cancérologie, je suis partie là-bas parce que je ne voulais pas, je ne me sentais pas malade, et je ne voulais pas me voir malade, donc je ne voulais pas avoir de malade. Tu sais, j'étais en école d'infirmière, donc tu es patiente et en même temps, tu apprends à être soignante. Donc du coup, c'était... Mais en même temps, sincèrement, tu vois, comme on dit, avec le recul, la vie n'a pas de hasard. Et j'ai appris énormément. J'ai appris deux fois plus. J'ai appris deux fois plus parce qu'en tant que patiente, j'ai pu déterminer ce que je ne voulais pas. J'ai pu déterminer la soignante que j'allais être, tu comprends ? Et ça a été... ça a été très très enrichissant finalement, tu vois, avec quand je fais des analyses rétrospectives, c'est ça, j'ai appris énormément en tant que patiente et en même temps dans les études, je pense que ça m'a fait grandir aussi en tant que professionnelle plus rapidement.
Donc tes études durent 3 ans et après qu'est-ce qui se passe alors ?
Eh bien on part. je passe après mes études. J'ai fait mon dernier stage pré-professionnel. Donc, pendant mes études, j'ai eu la chance d'avoir une tutrice puéricultrice. Donc, en fait, j'ai fait que mes stages obligatoires en cardio, neuro, enfin, tous ces trucs-là. Sinon, tout le reste, j'ai fait maternité, pédiatrie, pédopsychiatrie, psychiatrie de la femme. Tu vois, j'ai vraiment été en contact avec ce que je voulais. Vraiment, j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir cette tutrice qui a cru en moi. Et donc, j'ai pu faire mon stage pré-professionnel. Dans un centre maternel et infantile du Rhône, le département de l'enfance et de la famille du Rhône, et j'ai été donc dans un foyer de maltraitance. Donc j'étais infirmière où je faisais les bilans, en fait les bilans de santé des enfants retirés à leurs parents pour cause de maltraitance, de mauvais traitements. Donc histoire d'enfants maltraités, battus, les incestes, les viols, enfin voilà tout ça en fait sur l'enfant. Et autres, et des choses moins graves aussi, mais des choses très graves aussi. Et ça a été la révélation pour la suite, en fait, pour me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? On accompagne, c'est-à-dire qu'on a un problème, on se rend compte qu'il y a un problème, on retire l'enfant à sa famille, mais on n'accompagne pas les parents. C'est-à-dire qu'on agit une fois qu'il y a le problème, mais comment on le prévient, ce problème ? Est-ce qu'on le prévient ? Est-ce qu'on accompagne les familles ? Est-ce que finalement, on apprend aux familles, est-ce qu'on leur dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, est-ce qu'on prend en charge ces femmes, ces hommes qui arrivent à faire ça à leurs enfants, qui ont eux aussi des problèmes finalement, qui sont malades. Et tu vois, ça a été vraiment le dire, mais attends, on ne peut pas uniquement arriver comme des super-héros et sortir les enfants de leur contexte familial, briser des familles aussi, et finalement ne pas prévenir tout ça. On ne peut pas se retrouver avec des instituts pleins comme ça sans travailler avec les familles. Pour moi, c'était pas possible. C'est pas possible d'entendre un enfant me dire que c'est normal que sa mère lui écrase les cigarettes dans le dos. Tu comprends ? C'était pas normal. Mais cette maman, qui lui a dit qu'on faisait pas ça ? Quelle souffrance elle a ? Elle est malade, cette femme. Tu comprends ? Elle est malade, cette maman. Mais qui l'a soignée ? Qui s'occupe d'elle ? Pour pas, un, qu'elle recommence, et pour deux, qu'elle sache que c'est pas bien. Et tu vois, et donc j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais attends, qu'est-ce qui cloche ? Et ça a été un énorme stage, et donc ils m'ont employé après pour créer en fait à la création d'un centre maternel et infantile. Donc en fait toutes les mineures placées sous OPP qui tombent elles-mêmes enceintes. Donc elles se retrouvent enceintes dans un foyer de l'enfance, et ben du coup on a créé une structure en fait sur Lyon pour les accueillir. Donc c'était vraiment un lieu de vie où j'ai travaillé avec des éducateurs spécialisés à la mise en place de tout ça. Donc c'était beaucoup de l'éducation à la périnatalité, suivi de grossesse, éducation maternelle, hein, maternelle infantile, tu vois, avec maman mineure qui ne va pas accueillir les enfants comme une autre personne, mais qui reste une mère quand même, et dont l'enfant, qui a quand même besoin des mêmes choses qu'un enfant chez une autre famille, dans une autre famille, avec en plus parfois des bébés issus de viols, de jeunes filles qui ont été violées, d'accidents de la vie. Enfin, tu vois, c'est souvent des délais d'avortement qui sont dépassés. Ça a été aussi très révélateur pour moi, et ça a été le déclic en fait de la création du centre périnatal, le mien en fait. Alors à l'époque, je ne savais pas vraiment comment ça allait se faire, mais j'ai commencé à faire de la recherche, à essayer de prouver aux autorités qui me fermaient les portes sur mes projets que les liens entre non-accompagnement de la femme qui devient mère et les psychopathologies infantiles est établi. C'est-à-dire qu'il y a un lien dans le contexte de vie dans lequel va naître bébé et ses psychopathologies. Et donc j'ai commencé à chercher là-dessus, à faire des recherches, épidémiologie, enfin tu vois, lecture, épidémio, etc. Et en même temps est arrivée l'envie, si tu veux, l'envie, le retour où on s'est dit ok, on veut pas rester en France. Moi j'en ai marre d'avoir des portes fermées, bosser pour 1600 balles par mois, ça m'intéresse plus. Tu vois, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant finalement après aussi pas mal de galères. Et là on s'est dit écoute, on s'en va. On s'en va et moi je veux continuer, je veux mener à bien cette recherche et puis je veux faire quelque chose pour ces familles-là. Et donc voilà, on a commencé à chercher et du coup le Canada est arrivé en 2014. En 2014 et on a mis 2 ans à partir.
D'accord, ok.
Mais c'est ça, c'était pour aller plus loin au niveau professionnel, personnel aussi, parce que bah, je revenais, si tu veux, à mes premiers... Enfin, j'ai toujours eu envie de partir, hein, comme je te disais au début.
Mm-hmm.
Et donc là, bah, deuxième enfant, on a attendu qu'il naisse, que Marc-Eli naisse, et on est parti, Marc-Eli avait 2 ans.
Pour en revenir à cette deuxième grossesse, parce qu'on t'avait quand même dit que tu n'aurais plus d'enfants. Ça a dû être une surprise pour toi, justement, de réussir à retomber enceinte ?
Ça a été... en fait, mes ovules n'étaient plus viables. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai plus eu de règles. Et j'ai réussi à booster ma fertilité, à rebooster un petit peu ma fertilité et à retrouver des cycles. Donc, j'ai retrouvé des cycles un petit peu, voilà, miraculeusement. Mais ces cycles-là n'étaient pas viables. C'est-à-dire que mes ovules sont radiées, ne sont pas bonnes. Donc du coup, je n'ai pas eu, enfin mes ovules n'étaient pas viables. Donc en fait, ça marchait pas. Et on a eu quelques grossesses qui ont fonctionné, qui se sont arrêtées, dont la dernière où le cœur s'est arrêté en fait à la 13e semaine. Et où là, j'ai dit stop, quoi, j'en peux plus. Tu vois, je me suis, voilà, dans la salle d'échographie, je connaissais mon gynécologue par cœur, hein, c'est lui qui me suivait pour tout. Il y avait une relation presque familiale qui s'était établie entre lui et moi, parce qu'il m'a suivi avec mon premier, c'est lui qui m'a dépisté mon cancer, enfin, tu vois.
Mmh.
Voilà, quand même une bonne, il a tout vu avec moi. Et donc, je reconnais sa tête quand il a une mauvaise nouvelle. Et ce jour-là, on y croyait, hein, vraiment. On s'était dit, bon, c'est bon, cette fois, ça fonctionne et tout, ça va marcher. Et puis, en fait, tu sais, il fait l'échographie, puis il repasse l'échographie, puis il repasse, puis il cherche. Puis moi, je connais les matériels médicaux. Tu sais qu'il cherche quelque chose, puis tu sais que c'est le cœur qui cherche.
Mmh.
Et là, tu sais, ce gros silence très, très lourd. Mon mari et moi, on ne se regarde pas. On se fuit même du regard. On ne veut pas se regarder, en fait. Et là, il me dit, je ne comprends pas, le cœur s'est arrêté. Alors que j'avais des échographies toutes les semaines. Donc, je veux dire, la semaine d'avant, le cœur battait, quoi. Et là, j'ai dit stop, ça suffit, on arrête, quoi. Parce que je ne peux plus supporter, en fait. Voilà, je ne peux plus supporter. Je voyais que mon mari souffrait aussi. Tu vois, le premier bébé pour lui. Voilà, c'était vraiment une grosse souffrance. Et puis, c'était pas facile. Et puis, encore une fois, hein, comme un bébé arrive toujours quand du coup tu ne l'attends pas, Marc-Élie venait s'installer quelques mois après dans mon ventre. Et ça a été une grossesse complètement différente. En fait, clairement, je n'ai pas investi la grossesse du tout. J'ai été très, très, très active jusqu'à la fin. Une façon de fuir, une façon de pas souffrir que ça fonctionne pas, de pas souffrir. Voilà, pour moi, j'allais y croire quand il allait sortir, en fait, tout simplement. Avant ça, c'était difficile. Donc du coup, je j'ai l'avantage d'être dans le milieu, donc je sais ce qui s'est passé, je sais comment le réparer, enfin voilà, ça, j'ai fait un travail. Mais pour une maman, tu vois, qui n'est pas là-dedans, c'est pas les meilleures grossesses, quoi. Donc du coup, voilà, Marc-Élie est arrivé, et puis donc il n'était pas question qu'on parte à ce moment-là. J'avais été recrutée par un SUD Sainte-Justine pour ma recherche, et puis finalement, bon, on a décalé, et ça nous a permis de mettre un peu plus d'argent de côté. Moi, de continuer de bosser en maternité, parce que je suis retournée bosser, Marc-Élie avait 2 mois et demi, en néonat. Je suis partie bosser en néonat, et du coup, voilà, j'ai continué à faire grandir mon expérience professionnelle, et on s'est préparé tranquillement à venir ici, tranquillement.
Et pourquoi le Canada ?
Parce que c'était le plus facile.
D'accord.
On avait d'autres pistes, on avait les États-Unis qui nous tentaient beaucoup, parce qu'on aime aussi la culture nord-américaine. C'est juste qu'aux États-Unis, il nous fallait plus de temps, parce qu'une fois que tu arrives ici, faut que tu restes au moins 6 mois pour vraiment maîtriser l'américain à fond, puis pour toute la famille. Donc ça faisait 6 mois d'économie de plus. Tu vois, c'était pour nous le plus rapide et le plus simple. Et en même temps, les études universitaires en périnatalité qui proposaient étaient intéressantes. J'avais un bon deal professionnel, donc voilà pourquoi le Canada. Mais après, on regarde tout, hein, tu sais, on regarde l'aspect financier, l'aspect familial, et puis on a un critère supplémentaire qui est la mixité et le racisme. Donc, si tu veux, on va pas aller dans un pays où il y a beaucoup de racisme, hein, par exemple, parce que mon mari est noir, et donc moi je suis d'origine algérienne. Donc et puis il faut aussi un pays qui, niveau couple mixte, tu vois, soit pas trop mal vu, parce que t'as des États aux États-Unis où ils appellent ça interracial, ici, bah, ça passe pas. Donc voilà, tu vois, on a regardé tout ça et le Canada est l'endroit, en tout cas, le qui nous paraissait le mieux.
D'accord. Et donc là, la décision est prise, vous choisissez le Canada. C'est quoi le projet ? Vous dites que vous allez faire quoi en arrivant ?
Ah ben, c'est le flou. on se barre. Voilà, c'était notre coup, c'est on se barre, on se casse. Allez, on s'en va. On pouvait plus supporter, on supportait plus d'être en France, c'est pas une culture qui nous correspondait. On s'est rencontrés tous les deux, lui voulait rentrer dans son pays natal, moi je voulais partir à l'étranger, donc on s'est dit ok, on se calme, on attend, on pose les choses et on va choisir. Donc si tu veux, ça y est, on a choisi. Moi je passe mon entretien, 3h30 d'entrevue pour un hôpital. Et puis on se prépare, on met de l'argent de côté, on se marie, on prévient, bah, ma famille savait que j'allais partir, mais on essaye de vraiment passer de moments riches, parce qu'on savait que ça y est, c'était parti, j'ai été recrutée. Du coup, le projet, bah, en fait, on a choisi à l'entrevue, tu as 3h30 d'entrevue, d'entretien, et à la fin, ils te disent si t'es prise ou pas. Donc, ils te disent que t'es prise, donc génial, super, c'est bon, je suis prise, et ils te font choisir en fait une ville.
C'était pour faire quoi ?
Infirmière, j'ai été recrutée en tant qu'infirmière en périnatalité. Donc en fait, vu que mon bagage était que là-dedans, c'était vraiment pour bosser dans une maternité ou dans un centre mère-enfant.
D'accord.
Et en fait, à la fin, ils te disent OK. Et là, bah, ils te disent voilà. Ils te montrent sur la carte, ils te disent j'ai telle ville, telle ville, telle ville. OK. Et tu dois choisir la ville. Montréal, il n'y avait plus de place parce que j'avais décalé le projet. Donc si tu veux, Montréal, c'était bouché, ça n'avait plus de place. Et donc là, il me parle d'une petite ville. Donc moi, en fait, sur la carte, j'ai choisi celle qui était plus proche d'un aéroport. Voilà, sans savoir où on allait mettre les pieds.
Ah oui, l'inconnu total, la grande aventure, quoi.
Voilà, on ne savait pas du tout où on allait. Donc après, ça a été des mois, des semaines et des semaines de recherche sur Internet, de la ville. Alors après, les Américains sont très bons, hein. Je veux dire, ils ont une super belle vidéo qui te présente la ville, qui te font rêver, quoi, tu vois des familles en vélo, les belles petites maisons, enfin voilà, c'est Desperate Housewives. Donc on a fait un voyage repère tous les deux, on est parti 2 semaines, 2 mois avant de venir.
D'accord.
Juste pour trouver un appart et ne pas arriver sur place et rester des longues semaines à l'hôtel. Donc on est venu, on a trouvé notre appart, on a trouvé ça très très facile de trouver un appart. Donc en fait, on a trouvé notre appart dans lequel on est arrivé. Et puis bah, là, on s'est préparé. Donc moi, j'ai mis mon appartement en location à Lyon. Je suis partie chez mes parents le dernier mois. Enfin voilà, c'était de la préparation. J'ai bossé pendant un an avant le départ, j'ai bossé jour et nuit pour mettre de l'argent de côté. Parce que tu sais, on n'avait pas une thune. Hein. Donc du coup, il fallait qu'on mette des sous de côté. Tu vois, j'ai bossé en libéral la journée. Je faisais des vacations la nuit en psychiatrie, en maternité. Enfin, j'ai bossé comme une dingue. Et du coup, on est arrivé, début 2016, boum, on pose nos valises ici. Et voilà, nouvelle vie, nouveau départ. On a pris un container, on a fait nos affaires personnelles. Et ici, du coup, donc j'ai été tout de suite en pédiatrie. J'ai bossé, je suis arrivée en début 2016, en mars, je bossais en pédiatrie. Après, j'étais en maternité, j'étais formée, puis c'est un autre système de santé. Et en même temps, ce qui se passe en fait, c'est que tu ne peux pas, avec le permis de travail que j'ai, un, je suis obligée de travailler, j'ai obligée d'avoir un employeur, et de deux, je ne peux pas reprendre plus de 6 mois d'études. Donc en fait, j'ai fait plein, ici tu peux prendre des études, tu peux prendre juste le module d'hiver, le module de printemps, tu vois, tu peux prendre mois par mois, c'est très très libre les études. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes études bloc par bloc, pour ne pas dépasser 6 mois, j'ai fait bloc par bloc des études de deuxième cycle en périnatalité et en psychopérinatalité, en transnatalité. Enfin voilà, j'ai fait des blocs de 3 mois pour avoir encore plus de connaissances en fait. Et là, j'ai rencontré des gens en fait, des personnes qui étaient en pratique libérale, avaient leur cabinet, leur centre de santé. Tu vois, enfin voilà, c'était des trucs et je me suis dit waouh, mais pourquoi pas faire ça, tu sais, en périnatalité ? Pourquoi pas créer quelque chose en périnatalité ? Moi, bah, du coup, si tu veux, donc j'ai commencé à œuvrer à l'âge de 17 ans officiellement avec des familles, parce que j'ai travaillé avec des familles porteurs de handicap, des enfants porteurs de handicap à l'âge de 17 ans. Et après, bah, tu vois, comme là, je viens de le raconter, tu vois, tout s'est fait en fait au fur et à mesure, mais j'ai toujours eu un pied auprès des familles, des mamans et des bébés, vie perso, vie pro. Et donc, j'ai pu faire un stage donc, au Gabon, moi, pendant mes études. Voilà, j'avais emmagasiné pas mal de connaissances et on a un savoir-faire en France qui est quand même excellent. Et un savoir-être qui est très bon ici. Donc je me suis dit, bah, écoute, profite d'avoir les deux, fais un mix des deux, apporte ton expertise française. Tu sais, je veux dire, on a, comme je dis, on a de très très bons diplômes, je veux dire, on a de très très bonnes formations en France. Apporte ton jugement, ton expertise de France et mixe-le avec le côté très libéral de la pratique ici. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça si tu veux qu'en 2017 quand j'étais enceinte d'Aidan, donc troisième bébé qui arrive, alors là magique parce que du coup on se dit avec mon mari bon bah écoute je pense que c'est bon, on va essayer peut-être de faire un troisième enfant, j'enlève mon stérilet, donc j'avais un stérilet sans hormones depuis que j'ai mon cancer, je ne mets plus du tout d'hormones dans mon corps, donc stérilet au cuivre et là j'enlève mon stérilet en janvier, 1er février test de grossesse positif. C'est là, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible, ça peut pas nous arriver, ça peut pas être aussi simple, c'est pas possible. Chez nous, c'est jamais simple, c'est pas possible. Il y a un truc, tu vois. Donc, début de cette grossesse avec les angoisses des autres, hein. Tu sais, tu vas vérifier si t'as pas perdu de sang, dès que t'as une douleur, tu sais, tu te touches les seins toute la journée pour voir si t'as toujours mal au sein, qu'il y a bien de la progestérone, tu vois, c'est voilà, des cauchemars, enfin, les trois premiers mois très difficiles psychologiquement parlant. Et puis, bah forcément, hein, tu intériorises beaucoup. Donc j'ai été malade, comme j'ai jamais été malade pour cette grossesse. Et bon, elle s'est passée. Comme je répète, j'aime pas être enceinte, donc la grossesse s'est passée. Et donc durant cette grossesse, c'est là où je me suis dit, écoute, vas-y, ouvre ton truc, fais ton truc, crée ton truc, crée quelque chose qui n'existe pas. Voilà, moi mon souhait depuis le tout début, c'est que les mères ne soient plus seules dans leur maternité. Et ben fais en sorte qu'elles soient plus seules. Et sers-toi de tout ce que tu sais faire, sers-toi de ce que tu maîtrises, de ce que tu maîtrises moins, pour le faire. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un centre de santé, mais virtuel, parce que bah, en 2020, tout se passe à distance, bah, en 2017, mais tout se passe à distance, d'accord ? Je veux dire, se déplacer, oublier les rendez-vous, etc., c'est chiant. Sortir chez soi quand t'as un bébé, c'est chiant. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui viens à elle avec la visio ?
D'accord.
Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le centre de santé. Au départ, j'étais toute seule. Hein. Et en fait, moi, je me suis spécialisée en sommeil en 2014. Quand j'ai commencé à intervenir sur des groupes Facebook, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec le sommeil. Et donc, en fait, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec le sommeil? Et puis, j'avais cherché donc, l'Institut de Boston aux États-Unis, où j'ai pu faire un module à distance, etc. Et donc, j'ai cheminé jusqu'à développer mon propre accompagnement au sommeil et à la périnatalité, en fait, parce que c'est ce qu'on travaille avec le sommeil, c'est ce qu'on travaille avec tout, en fait. Donc, du coup, voilà, mission accomplie aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et la création de ce centre. Et ben, tu vois, quand j'ai fait ma fausse couche et que je m'étais dit, je ne veux pas que les mamans soient seules à vivre, voilà, mon souhait, c'est que les mamans ne soient plus seules dans la maternité. Et aujourd'hui, ben, j'ai un peu l'impression d'accomplir ma mission.
Et alors, tu fais quoi au quotidien? C'est quoi exactement l'accompagnement?
Au quotidien, alors l'idée, c'est que bah, comme vraiment, je répète, c'est qu'elles ne soient plus seules et qu'elles puissent comprendre ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, j'écris beaucoup. En fait, c'est des résumés de consultation. Hein, c'est-à-dire que dès que j'ai une consultation avec une patiente, une maman, que ce soit en cours prénato, en sommeil ou en allaitement, et ben, il y a des questions qu'elle me pose, cette maman, puis il y a des réponses que je lui apporte et qui changent plein de choses en elle. Et je me dis, mais si ça a changé ça en elle, ça peut changer ça en plein d'autres personnes. Et donc, de là, en fait, j'écris des posts, du coup, sur les réseaux sociaux, un petit peu, bah, voilà, des phrases que je vais dire. Toutes les phrases que j'écris, c'est les phrases que j'ai dites à mes patientes. Voilà, bah non, vous n'êtes jamais trop fusionnelle avec votre bébé. C'est des choses que je dis à mes patientes et qui m'inspirent. J'adore écrire, même si je n'ai pas le profil littéraire. J'adore écrire. Et j'aime ça, j'aime vraiment écrire et parler. Et donc, du coup, bah, j'écris. Je pose, en fait, je pose et je me dis que tout ce que je pose, ça peut servir à d'autres, puis c'est plus dans ma tête. Donc en fait, j'ai commencé comme ça à écrire sur les réseaux sociaux, indépendamment au départ du centre de santé, parce que je faisais ça sur les groupes Facebook. J'étais référente santé dans les groupes Facebook de certains groupes Facebook français. Et là, et ben, dans le cadre de ma pratique en fait. Donc maintenant, c'est des consultations. Je fais de la consultation infirmière. La consultation infirmière existe en France, mais n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue, elle n'est pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, donc elle n'est pas remboursée, mais dans les champs de compétences des soins infirmiers, il y a la consultation infirmière. Et je persiste aujourd'hui à me battre pour que cette consultation infirmière soit reconnue en France et qu'on laisse une place aux infirmières, puéricultrices ou pas, en complément des suivis pédiatres et gynécaux, pour justement pallier à ce manque en fait, d'accompagnement. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais, sauf que du coup, vu que ce n'est pas reconnu en France, je le fais en privé et toute seule. Enfin, plus toute seule, parce que maintenant, j'ai une équipe de 6 professionnels. Mais voilà, je veux donner à la fois une place aux professionnels de santé se spécialiser en périnatalité, comme on peut le faire aux États-Unis ou au Canada, et en même temps, faire en sorte que les mères ne soient plus seules. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec une maman, on parle de comment est arrivé bébé dans sa vie, de quand est-ce que bébé est arrivé dans sa vie, de comment elle l'a vu, de sa relation avec sa maman, avec son papa, de son enfance, de son vécu. On parle de tout ça, d'accord ? On pose tout sur la table, on pose toutes les cartes, on vide tout le sac de la maman sur la table, et à partir de là, on travaille sur qu'est-ce que tu es en train de ressentir, pourquoi est-ce que tu ressens ça, et comment est-ce que ça peut s'améliorer. Et le sommeil, par exemple, des choses avec lesquelles on travaille beaucoup, je ne suis pas une fée du sommeil, je ne suis pas une faiseuse, je ne fais pas dormir les enfants, d'accord ? Je travaille avec les mères, je travaille avec les pères, je travaille avec les familles, à leur donner des outils de compréhension et d'accompagnement. Parce que l'enfant mérite une place et tout ce qui se passe dans son enfance a une conséquence sur son développement et sur l'adulte qu'il sera. Et les adultes en souffrance, qui, comme moi j'ai pu les voir, j'ai vu des adultes en souffrance autant en psychiatrie que dans le centre maternel et infantile que j'ai vu. Je veux dire, une mère ou un père qui en vient à maltraiter son enfant, c'est un adulte en souffrance. Et cet adulte en souffrance, ça a été un enfant en souffrance. Et cet enfant en souffrance, ça a été un bébé en souffrance. Donc, si on travaille tout de suite, sur les bases et sur une place qu'on donne à ce bébé, on pose des bases solides, en fait, pour plus tard. On pose des bases qui sont bonnes, qui vont permettre à l'enfant de se développer sainement, de façon optimale, et peut-être éviter d'être cet adulte en souffrance. Donc, le travail que je fais, il est là. Et ça se passe dès la grossesse, ça se passe dès la naissance, dès les premiers mois de vie, ça se passe au moment où tu décides de laisser pleurer ton bébé, de répondre à ses besoins ou pas. Mais pour répondre aux besoins d'un autre être humain, il faut que tu réussisses à répondre à tes besoins avant. Donc c'est tout ce travail en fait vraiment qu'on fait de fond, et c'est ce que je défends énormément, c'est que la périnatalité, c'est un domaine très riche et très difficile dans lequel on travaille, parce qu'on ne prend pas travailler dans la périnatalité, c'est pas seulement prendre un bébé et apprendre à une maman à changer ses couches, c'est pas seulement savoir donner un bain à un bébé, c'est pas seulement savoir donner à manger ou allaiter son bébé, c'est pas ça. Travailler en périnatalité, c'est accompagner de façon globale une famille entière, c'est prendre en charge une maman, un papa, un bébé, un deuxième bébé, et prendre l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accueillir ce que les parents vont déposer dans tes mains. Et c'est pas facile, et c'est un défi. Donc moi j'ai relevé ce défi, et aujourd'hui je forme, du coup j'ai une équipe de 6 personnes qui apprennent toutes les semaines en fait, encore, beaucoup. Et moi comment j'ai appris, c'est parce que c'est toute ma vie qui m'a appris ça. C'est mon parcours, c'est mon parcours perso, c'est mon parcours pro, c'est les différents pays dans lesquels j'ai travaillé, c'est les différents services dans lesquels j'ai travaillé. Et puis, si tu veux, à chaque fois, je veux dire, ma vie, je l'ai repartie à zéro plusieurs fois, ma carrière professionnelle aussi. Et à chaque fois, j'ai réappris. Et c'est cette capacité à se remettre en question qui moi, m'a formée, en fait.
Et quelle différence tu vois alors entre le traitement de la périnatalité au Canada et avec la France ?
La famille passe en premier ici. La différence, elle est essentiellement dans la prise. Alors, c'est deux cultures de soins différentes. Donc, on a une culture de soins publics en France et on a une culture de soins semi-publics au Canada et même privés aux États-Unis. Et ici, la santé, Quand tu parles avec une infirmière ici ou une consultante en lactation ou un médecin, il parle de ses clients. D'accord, il ne parle pas de ses patients. Et le fait qu'on voit en fait la santé comme un service que l'on offre et que l'on rend à la population fait en sorte, si tu veux, que les champs de possibilités sont beaucoup plus grands. En France, je trouve que le soin, c'est un dû, c'est une espèce de « on doit ». Prendre soin de la population, et la population reçoit ça comme un dû aussi, et donc du coup c'est une culture complètement différente en fait, tu vois. Donc ce qui fait que ça donne la place à plein de choses ici. Donc la périnatalité a une place essentielle, il y a énormément de ressources pour les jeunes mamans, privées, je répète, elles sont privées, de ressources aussi en termes de médecine parallèle, chiropracteur, naturopathe, ostéopathe, tu vois, je veux dire, il y a une place énorme en fait. Mais comparé à la France, vu qu'il y a tout le monde peut faire tout ce qu'il veut finalement, bah, ça laisse la porte ouverte à des gens peut-être, tu vois, qui sont pas forcément formés, qui sont pas, tu vois, il y a moins d'exigences. Donc il y a des différences, mais pour moi il y a une complémentarité avant d'y avoir une différence. Et l'avantage que je peux avoir, c'est que j'ai les deux en fait, et que cette complémentarité, ben moi je la retranscris dans ma pratique.
Et tu me disais que toi, du coup, tu avais des patientes issues de tous les milieux sociaux.
Oui, parce que peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu sors, peu importe ton milieu social, peu importe ta culture, peu importe tes origines, ta maternité, elle est la même. Elle est la même. L'intérieur, il est le même. Les choses qui se jouent au niveau transnatal, au niveau psychopérinatal, c'est la même chose. Donc en fait, pour moi, c'est important d'être accessible à tout le monde. Je ne peux pas, moi, en étant, si tu veux, une personne issue de multiculturalité autour de moi, d'avoir créé une famille multiculturelle, d'avoir voyagé dans plusieurs pays, d'avoir travaillé dans plusieurs endroits et de cibler qu'une seule population. Ce n'est pas possible. C'est pour moi une mère, c'est une mère, point. Je ne regarde pas ce qu'il y a autour, en fait. Et ça, ça se ressent. Tout le monde, tout le monde a une place, en fait. Moi, perso, je cible personne. Je cible la maman. Qu'elle soit en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, voilà, peu importe, c'est la maman.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça ne m'a pas changé, c'est venu me compléter. C'est venu compléter ce que j'étais déjà, c'est venu clôturer le puzzle, tu comprends ? C'était la pièce manquante, en fait, à ma vie. Ça a donné un sens, en fait, à ma vie et une raison de jamais faillir. Ça m'a donné une raison de ne jamais faillir.
Qu'est-ce que tu dirais à Audrey, à 17 ans, qui décide de quitter le parcours scolaire et...
Sincèrement, je lui dirais, meuf, t'as raison. Je lui dirais, t'as raison. Va-t'en, fais ce que t'as envie. Vas-y, t'es sur le bon chemin. Voilà ce que je lui dirais. Sincèrement, vraiment, aujourd'hui, là, ça fait 18 ans, 18, 17 ans, ouais, ça fait 18 ans après, je dirais ça va être dur, ça va pas être facile, tu vas te mettre beaucoup de personnes à dos, tu vas sortir des cases, tu vas sortir des codes, ça va être mal vu, mais vas-y. C'est ce que je dis à mes enfants, n'ayez pas peur d'être dans aucune case, n'ayez pas peur. Et c'est ce que je lui dirais ça, sors des cases, sortir des sentiers battus. Et ouais, je dirais ça. Et je te dis, j'ai trois enfants, donc j'en ai un qui est grand, hein, qui a 17 ans dans 5 ans. Du coup, c'est ce que je leur dis. Moi, je suis pour la liberté individuelle, la liberté intérieure. Et je lui dirais ça. Je lui dirais, t'as trouvé ta voie, ne reste pas dans les cases. Vraiment. Ouais, franchement, je lui dirais de continuer sur cette voie parce que ça va l'amener où elle est aujourd'hui. Et où je suis aujourd'hui, c'est rare que j'ai du mal à imaginer, enfin j'ai du mal à ressentir de la fierté, mais où je suis aujourd'hui, je sais en tout cas que j'ai fait tout ce que j'ai eu à faire et tout ce que je continue de faire avec le cœur. Mais le jour où mes enfants me regarderont, un de mes enfants me dira « Maman, je suis fière de toi, pour moi j'aurai réussi. »
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
T'écoute.
C'est quoi pour toi être une maman canadienne ?
C'est être une maman hyper organisée.
Ouais.
Ouais. C'est une chose que j'apprends, j'ai beaucoup appris à faire ici, mais alors les mamans canadiennes sont hyper organisées. C'est comme, elles anticipent tout. Au mois d'août, elles ont leur truc. Tu vois, cette année, je suis une maman canadienne. Parce qu'au mois d'août, j'ai acheté mes ensembles d'hiver pour mes enfants.
Ah oui.
Voilà. Donc, je suis maintenant une maman canadienne. Je fais manger les enfants à 5h30, 6h. Donc, je suis une maman canadienne.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré au Canada avec tes enfants?
Bah, sincèrement, c'est Disneyland, même pas au Canada. Mon endroit préféré où j'aime aller avec mes enfants, parce que je suis une enfant avec eux, c'est à Disneyland.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, mes projets rien que pour moi, c'est me refaire la poitrine. Et je veux retrouver une poitrine d'avant maman allaitante. Et, familialement parlant, refaire un voyage, repartir.
Merci beaucoup, Audrey.
Merci à toi, Chérie.
Merci d'avoir écouté le tourbillon et le parcours d'Audrey qui donne clairement envie de sortir des sentiers battus et de suivre son intuition. Pour échanger sur cet épisode, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et laissez votre commentaire. Si vous souhaitez soutenir Le Tourbillon, la meilleure façon de le faire est d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous mardi prochain dans Le Tourbillon pour découvrir une nouvelle histoire et parler de la maternité, la vraie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.